Alors, il est 6h03 exactement. Nous sommes mardi 19 novembre. Bonne journée. Bienvenue au 98.5 FM. Juste vous dire là, que, je le répète, que la commission scolaire des Hautes-Rivières, toutes les écoles et les centres sont fermés aujourd'hui en raison de cette bruine verglaçante. Ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre, là. Et c'est souvent le transport scolaire qui est problématique. Donc, c'est tout le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, il n'y a pas de cours aujourd'hui. Les centres également sont fermés. Maintenant, pour ce qui est des prévisions météo, ce matin, on a cette faible pluie verglaçante ou bruine verglaçante, moins 1 degré, avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Mais ce que ça veut dire dans les faits, c'est qu'on aura des flocons un peu. Il n'y a pas d'accumulation de prévues aujourd'hui. Alors, c'est du temps gris, 2-3 flocons, peut-être un peu de pluie verglaçante, avec un maximum qui va tourner autour de zéro. Pour ce qui est de ce soir et de la nuit prochaine, ça demeure nuageux, moins 4 degrés. Mercredi, demain, nuageux. Encore là, peut-être quelques flocons, mais rien de majeur. Et finalement, ce sera le retour du soleil jeudi, avec des températures toujours autour de zéro. Alors vraiment, pour aujourd'hui, demain et jeudi, des températures qui tournent autour du point de congélation. Je veux parler de sécurité routière. Vous venez d'entendre peut-être ce que Marie-Laurence vient de dire. C'est qu'on a démantelé l'escouade de sécurité routière puis on a réaffecté les policiers vers les postes de quartier. Et qu'en plus de ça, bien, il y a une diminution d'effectifs de 30 % du nombre de policiers sur le terrain. Et ce sont des policiers qui nous ont avertis de ça. Alors que la Ville de Montréal nous annonce des grandes mesures, comme par exemple dans le secteur de Rosemont, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, d'ajouter des arrêts obligatoires, de faire en sorte que, au feu de circulation, on accorde plus de temps aux piétons pour traverser. Moi, je veux bien tout ça, là. C'est très bien. C'est des belles mesures annoncées par la Ville de Montréal. Mais la réalité sur le terrain, c'est que les automobilistes se comportent dangereusement. Et quiconque circule dans les rues de Montréal, quiconque marche dans les rues de Montréal est en mesure de voir qu'il y a des intersections qui sont dangereuses, il y a des comportements qui sont dangereux. Et il ne s'agit pas toujours là, de piétons morts ou de piétons blessés. Il y a des piétons qui ont peur et il y a des piétons qui sont complètement indisciplinés et qui s'attirent du trouble. Tu sais, quand tu portes des écouteurs, quand tu regardes ton téléphone, puis que tu traverses une rue, je comprends que c'est ma responsabilité comme automobiliste de le voir venir. Mais sérieusement, là, ça prend, je dirais, la manière forte pour ramener un peu de discipline dans les rues. Et moi, quand j'entends que beaucoup de policiers sont affectés à des tâches administratives, vous me permettrez de trouver que c'est fatigant un peu beaucoup. Moi, la police, je ne veux pas les voir dans les postes, je veux les voir dans la rue. Je veux les voir dans des intersections. Et une présence, là, ça fait toute la différence. Et c'est vrai, là, plus bel exemple que je peux vous donner, quand on déplorait l'absence de policiers, par exemple, lors des grands chantiers, parce que ça créait des bouchons de circulation. Combien de fois je vous ai donné des exemples, que ce soit Bridge, Wellington. Puis là, les gens, pas de police, là, les gens cessaient, puis ils forcent la voie. Alors que quand la police est présente, pas dans son char, sur le coin de la rue, gère les feux de circulation, même des cadets, ça vient comme dissuader les gens de forcer le système. Ben, c'est aussi vrai. Alors, on peut mettre tous les obstacles qu'on veut dans les rues de Montréal pour protéger les piétons. Moi, je pense que ça prend plus que ça. Ça prend des amendes beaucoup plus sévères, un peu comme on le fait pour des cas d'alcool au volant, où on le fait, par exemple, dans des cas de récidive pour des jeunes conducteurs, alors qu'il y avait une gradation, puis ça pouvait aller jusqu'à la perte du permis de conduire. Donc, on vous parlera de ça un peu plus tard ce matin aussi. Il y a cette nouvelle qui est absolument troublante dans la presse. Le SPVM qui enquête sur le cas d'un bébé de 15 mois, qui est mal nourri, qui est rachitique. Cet enfant-là pèse à peu près 6 kilos. 6 kilos, là, c'est le poids d'un bébé de 2 mois, en moyenne. Il a 15 mois. Et non seulement il ne prend pas de poids, mais il en perd. Des carences en vitamine D, en phosphore et en calcium. Je cite l'article, « Ses os étaient transparents et friables au point de se casser à rien. Les médecins ont découvert que l'enfant présentait d'autres fractures, dont deux aux jambes et deux aux bras. Le bébé a été hospitalisé parce qu'on avait peur qu'il fasse un arrêt cardiaque. » En plus de ça, les parents ne collaborent pas. Pourquoi? Parce que les parents ont une philosophie de vie qui consiste en une diète alimentaire végétalienne restrictive. La mère se nourrissait presque uniquement de fruits et son lait maternel n'était pas assez riche en nutriments, alors que le bébé était pratiquement juste allaité. Alors, on n'a pas affaire à des gens qui n'ont pas accès aux aliments nécessaires pour s'assurer de la santé puis de la croissance d'un enfant. On a affaire à des gens qui ont décidé d'avoir un mode de vie strict, restrictif, puis d'inclure leur enfant dans ça. La mère, elle boit que du jus de fruits, ça a l'air. Ou elle mange des fruits. La DPJ est arrivée dans le dossier, c'est clair. Et je lisais les propos du docteur Chicoine ce matin qui commande pas le cas précis, là, c'est correct, là. On verra ce que l'enquête policière va donner. Mais il dit que dans les années 40 et 50, ça pouvait exister parce que les gens étaient pauvres, les gens n'avaient pas de quoi manger, il n'y avait pas de variété. Et là, on a ajouté, entre autres, de la vitamine D dans le lait. Et les cas de malnutrition sont rares. Et quand il y en a, ce sont des cas de négligence, là. Et de plus en plus, on retrouve des gens qui ont, ça les regarde comme adultes, là, des modes de vie très stricts, très sévères, avec des principes. Et là, quand t'as affaire à des bébés, c'est comme la religion, là. T'as pas à imposer ça à des enfants. Parce que il y a la religion traditionnelle, puis les nouvelles religions alimentaires. T'sais, ça devient presque sectaire. C'est ta vie, ça te regarde. Mais quand tu mets en danger un enfant, là, c'est une autre affaire. Alors, c'est dans la presse que vous retrouvez ça ce matin, et ça arrive au moment où on rend public le nouveau portrait de l'Observatoire des tout-petits. Dans quel environnement grandissent les tout-petits du Québec? Et il y a des choses bien intéressantes. Hier, on a eu le document, on a pu regarder ça en détail. D'abord, globalement, la bonne nouvelle, c'est que ça va mieux pour les enfants. Il y a encore des enfants qui sont plus vulnérables que d'autres. Et là, on parle des bébés de 0 à 5 ans. Des enfants qui vivent la pauvreté, mais il y en a moins. Par contre, on découvre que les mères, les jeunes mères, vivent énormément de stress. Pourquoi? Ben, c'est toujours la même chose. Les responsabilités familiales, souvent les activités professionnelles, parce que je pense que c'est 70 % des parents qui travaillent, hommes et femmes. Donc, concilier tout ça, c'est difficile. On se rend compte également que pour les parents, la première année du retour au travail, c'est souvent quelque chose de difficile, d'ajustement, surtout quand c'est le premier enfant. Bref, il y a un niveau de stress plus élevé chez les jeunes mères. On se blâme souvent mutuellement de ne pas passer assez de temps avec les enfants. Toujours l'argument de dire « je passe du temps de qualité », c'est pas la quantité, mais ça prend de la quantité aussi. Et également, il y a quand même des enfants qui vivent carrément dans des situations de pauvreté, famille monoparentale, et des gens qui, on l'a vu la semaine dernière avec le rapport sur les banques alimentaires. Mais par contre, on peut dire que le portrait global s'est amélioré. On va parler avec la responsable de l'Observatoire tantôt. 6h12, on a toujours cette petite bruine. J'ai un auditeur qui m'a écrit. Il y a eu des sorties de route dans le coin de Sainte-Madeleine. Oui, des gros camions là, qui ont fait des sorties de route. Oui, des mises en portefeuille comme ça. Merci beaucoup. On poursuit notre revue de presse. Cette fois, ce sont des chiffres qui concernent le stress des étudiants. Alors, c'est publié dans le Journal de Montréal, presque 60 % des étudiants universitaires présentent un niveau élevé de détresse psychologique. C'est, semble-t-il, la plus importante étude faite sur le sujet. Il y a 24 000 étudiants qui viennent de 14 établissements qui ont participé sur une base volontaire à ce sondage qui a été mené par l'Union, en fait, pour le compte de l'Union étudiante du Québec, par la firme Léger. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'un niveau de détresse élevé, près de 20 % ont des symptômes dépressifs nécessitant un soutien médical ou psychologique et 9 % des étudiants disent avoir des idées suicidaires. ça m'apparaît beaucoup. Je comprends qu'il y a un stress, une espèce de besoin de performer, de réussir. Il y a des disciplines où c'est plus exigeant que d'autres. Mais c'est quand même, là, je comprends que le stress, ça a l'air de faire partie de la vie quotidienne dans bien des domaines. Mais la semaine dernière, on parlait de jeunes qui étaient aussi stressés, de jeunes hommes. Mais là, quand vous regardez la détresse psychologique, 55 % des étudiants universitaires, c'est à peu près la même tranche d'âge que la semaine dernière, là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'ai pas de réponse à donner. Je constate avec vous les chiffres. Je trouve que c'est énorme. Est-ce qu'on exagère le phénomène? Vous êtes peut-être passé par l'université. Je suis passé. Je suis en sciences politiques. Je comprends que ce n'est pas en médecine. C'est pas le même niveau de pression, c'est clair. Mais on a tous connu des périodes d'examen plus intenses, de remise de travaux, de pas dormir, puis de... Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on est plus fragile? Est-ce qu'on a tendance à... Je dirais à pas être habitué de vivre une certaine pression, puis on l'a quand on arrive au niveau universitaire. En tout cas, on précise qu'il y a également jusqu'à 6 mois d'attente pour voir un psychologue. Et autre article, c'est dans Le Devoir ce matin... quelqu'un qui dénonce les conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo, des longues heures de travail, de la mauvaise gestion. Beaucoup de gens qui restent pas longtemps dans le secteur. C'est un ex-programmeur qui dit que les employeurs doivent trouver des solutions. Et c'est souvent de jeunes travailleurs qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc, vous pourrez lire ça dans Le Devoir ce matin. Encore là, on parle de stress. Toujours dans le Journal de Montréal, êtes-vous étonné d'apprendre que les commerçants de Québec et de Montréal sont ceux qui payent le plus de taxes? Ben non. Alors, Québec et Montréal ont les taux d'impôt foncier dans le secteur commercial les plus élevés au Canada. Une situation, évidemment, qui est ressentie, qui n'est pas une surprise pour les commerçants. Je n'irai pas dans le détail, mais c'est clair que la politique à l'égard des commerce à Montréal. On a beau avoir le discours officiel là, de Mme Plante de dire « Oui, oui, on est pour une ville avec une offre multiple de services commerciaux, de magasins, de restos. » Dans les faits, c'est une combinaison. C'est vrai que les ventes en magasin se font rentrer dedans par les ventes en ligne, mais c'est vrai aussi qu'on n'a pas trop le choix, qu'on a multiplié les chantiers. Je parlais l'autre soir avec un restaurateur dans le centre-ville, il ferme. Il ferme pourquoi? Parce que d'abord, on a foutu un chantier devant son resto pendant des mois, pour ne pas dire une année et demie. C'est le genre de chantier, là, à part les habitués, t'attires pas, et on est sur la rue près de Sainte-Catherine, là, dans l'ouest. Ben, moi, je suis rendu à un certain âge, pas vrai que je me recommence ailleurs, puis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis son restaurant fonctionne parce qu'il est là depuis longtemps, mais l'espèce de manque à gagner, ben, ça a disparu. Et entre-temps, son compte de taxes augmente. Puis évidemment, le propriétaire, lui, il leur file à son locataire. Et les augmentations ont été substantielles au fil des ans. Quand vous regardez les chiffres, on peut constater que c'est des augmentations de presque 10 % par année, dans bien des cas. On va nous sortir le budget de la Ville de Montréal bientôt, là. Mais quand vous comparez avec d'autres villes, il faut faire attention aussi avec les comparatifs. Mais c'est clair que Montréal, les commerçants sont surtaxés. On reçoit des courriels, on m'accroche quand je me promène en disant « M. Arcan, ça n'a pas de bon sens. » T'sais, si vous êtes sur Sainte-Catherine, il y a des rues commerciales qui sont devenues des chantiers permanents. Et disons que ça n'aide pas à faire venir la clientèle. Autre nouvelle qui est importante, qui est sortie hier, alors qu'on a eu une décision de la Cour fédérale qui bloque l'accès par des fournisseurs Internet comme Vidéotron, comme Bell, d'une firme qui s'appelle Gold TV. Cette firme-là, ce qu'elle fait, elle prend les signaux, elle pirate, dans le fond, les signaux des chaînes de télé et offre ça, donc, à une clientèle. Alors, vous n'avez pas à payer pour le câble, comme on dit. Vous n'avez pas à payer pour le service de Bell. Et là, ben, vous vous branchez, puis vous avez accès à 250 chaînes de télé. Gratos. Ce qui fait que, évidemment, les fournisseurs sont pas bien contents de ça. Puis mettez-vous à la place de Vidéotron, mettez-vous à la place de Bell. Alors, finalement, ils ont obtenu gain de cause. Et c'est une première victoire. Il y a évidemment la possibilité d'aller en appel. Mais là, dans le fond, ce que ça dit, c'est que quand tu as des entreprises comme ça, notamment qui sont à l'extérieur, d'ailleurs, la compagnie ne s'est même pas pointée au procès, peut-on lire dans la presse, ben là, tu sais, ça devient du piratage, c'est du vol. Puis la loi interdit le vol. Alors, c'est ce premier site comme tel de piratage qui est bloqué. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs quand même. On a eu l'occasion d'en parler assez souvent. Il y a également le lobby des producteurs de pétrole au Québec. En fait, je dirais toute l'industrie pétrolière, pour être plus précis. Le gouvernement Legault veut augmenter la quantité d'éthanol, le pourcentage dans l'essence québécoise. Et l'objectif, c'est qu'on ait 15 % d'éthanol d'ici 2025. Ça, c'est après-demain, là. Trois fois plus que la norme fédérale actuelle. Alors, l'industrie dit quoi? C'est qu'il va falloir investir dans les infrastructures pour arriver à ça. Puis, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'harmoniser avec le fédéral afin d'avoir une politique uniforme? Le ministre Jonathan Julien, qui a défendu cette réforme-là, qui n'est pas encore 100 % réglée, là, il peut y avoir des modifications. Mais il y a comme deux problèmes. D'abord, en fait, l'aspect positif, c'est que ça fait baisser les gaz à effet de serre. Bonne nouvelle. Le deuxième, c'est est-ce que les voitures, est-ce que les moteurs vont être adaptés à la norme du gouvernement du Québec? Ça a l'air que c'est loin d'être sûr. Même le CA Québec aurait émis de gros bémols là-dessus. Et toujours dans le domaine de l'environnement, on a une étude ce matin qui montre que pour ce qui est de l'achat de véhicules électriques, le nombre de bornes de véhicules électriques, le Québec fait une très belle performance à travers le Canada. Disons qu'il y a deux provinces qui se démarquent, c'est le Canada, en fait c'est, pardon, le Québec et la Colombie-Britannique. Là, on est moins bon, c'est dans l'efficacité énergétique, le code du bâtiment qui n'a pas été revu depuis les années 80. Alors, étude qui est rendue publique dans The Gazette ce matin. Rapidement, dans les autres nouvelles, vous dire aussi qu'il y a bien du placotage, bien des rumeurs au sujet de la formation du nouveau gouvernement Trudeau. On va en parler avec Bernard tantôt, mais tout indique que Stephen Guilbeault va entrer au cabinet. Et puis, on revient, puis Philippe Bonneville sera avec nous tantôt, au sujet du Wexit, c'est-à-dire ce mouvement indépendantiste en Alberta. Les sondages, il y en a eu plusieurs, là, essentiellement montrent qu'il y a 30 % des Albertains qui appuient. Tout ça basé sur cette confrontation avec le fédéral, puis avec le Québec, puis en fait la Colombie-Britannique, sur le fameux pipeline, sur la capacité de l'Alberta à vendre son pétrole à l'étranger, donc à faire de l'argent, et aussi l'idée que le Québec s'y oppose, mais touche quand même l'argent de la péréquation. Et notre ami Philippe est allé voir des gens sur le terrain, aussi, c'était une assemblée en fin de semaine. Et c'est pas juste un sentiment anti-Québec. Ce que les sondages montrent, c'est qu'il y a 15 % de purs et durs qui disent qu'il faut sortir de ce régime-là, puis t'as 15 % à peu près des gens qui attendent de voir peut-être le fruit de négociations avec le fédéral. On fait une pause, il est 6h23. On y va avec le tunnel La Fontaine.